Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir.
Bonjour Odette.
Bonjour Thomas.
Aujourd'hui dans ce rendez-vous conso du FC Que Choisir, nous allons parler du compte bancaire. Ce que la banque peut faire ou pas.
Ou pas. Effectivement, entre obligations légales et pratiques bancaires parfois opaques, les relations entre les clients et les banques suscitent de nombreuses interrogations ou donnent lieu à des litiges. Donc en ce qui concerne les relevés de compte, les contestations d'opérations, les demandes de justificatifs, des frais en cas de décès ou de découvert. Quels sont vos droits? Donc l'UFC, on va proposer de faire un point sur la réglementation et tester nos connaissances avec 6 questions.
Allez, je vous les pose. Ma banque peut-elle m'imposer de consulter mes relevés de compte sur Internet?
Alors, la réponse est non.
D'accord.
Pourquoi? Donc le relevé de compte peut être fourni sous format papier ou en ligne sur support durable, généralement dans votre espace personnel sur site de la banque. Donc c'est l'un ou l'autre. Vous avez le choix du support sur lequel vous souhaitez recevoir et consulter vos relevés bancaires. Ce n'est pas la banque qui peut l'imposer. D'ailleurs, si votre banque souhaite passer au format numérique, elle a des obligations.
D'accord.
Alors, ces obligations, c'est donc qu'elle doit s'assurer que ce mode de communication est adapté à votre situation. Donc, vous pouvez effectivement aller consulter. Vous devez en être informé préalablement par un courrier mentionnant que vous avez le droit de vous opposer au support durable à tout moment. Alors, il y a une exception. Ce sont les banques exclusivement en ligne, voilà, donc, qui peuvent imposer un relevé en ligne uniquement si le service fourni est de nature exclusivement électronique. Bon, on a des exemples, c'est le compte N26 ou le compte Revolut, qui sont des comptes en ligne. Hormis cela, donc, on a toujours le choix du support papier.
D'accord.
Et donc, si on demande à rester au format papier, on ne peut pas disposer de relevé de ligne en parallèle. C'est-à-dire que je ne peux pas dire les deux, je veux le papier, mais je veux aussi, on ne peut pas l'exiger.
Ouais.
C'est l'un ou l'autre. Donc, si vous étiez au format numérique et repassez au format papier, il faut vérifier les conditions prévues dans la convention de compte. Tout est prévu.
Ouais.
En effet, il y a certaines banques qui laissent accessible le relevé précédemment reçu au format numérique dans l'espace client. C'est en particulier le cas si vous avez d'autres comptes qui sont sur l'espace client.
Allez, quelle est la fréquence et le coût des relevés?
Alors, quel que soit le support, donc papier ou numérique, la banque doit vous remettre gratuitement un relevé de compte une fois par mois. Ça, c'est une obligation.
Gratuitement, hein.
Gratuitement. Si vous avez opté pour le relevé sur Internet, la banque doit vous informer, généralement par courriel, de la mise à disposition du nouveau document sur votre espace en ligne. Vous recevez un mail en disant vous avez un nouveau relevé sur votre espace en ligne. Vous pouvez éventuellement demander des envois plus fréquents, par exemple tous les 15 jours, tous les 10 jours. Mais alors dans ce cas-là, la banque peut les facturer. Et donc, il faut vérifier ça aussi, toujours dans les conditions générales, conditions tarifaires.
Oui, on rappelle, hein, c'est une fois par mois que c'est gratuit. Après,
voilà,
pour le reste,
c'est entre
vous et la banque.
Tout à fait, si on le veut plus fréquemment, effectivement, ça peut être payant. Et si, par hasard, on a perdu son relevé d'identité et qu'on veut un duplicata, donc la banque peut vous le facturer selon, toujours pareil, les tarifs prévus dans la convention de compte. Donc, il faut surtout bien conserver ses relevés numériques ou papier, mais il faut les conserver.
Quelle est la durée de conservation des relevés de compte?
Alors, la banque, elle, en tant que commerçant, elle doit les conserver pendant 10 ans.
D'accord.
Au-delà, elle n'est pas obligée de les fournir. Et de votre côté, donc gardez-les pendant au moins 5 ans. On considère que cette durée correspond au délai de prescription qui permet d'agir en justice dans la plupart des cas. Donc, il est sage de les garder pendant 5 ans.
5 ans, ok. Est-ce que je peux contester pardon, une opération de paiement auprès de ma banque n'importe quand?
Alors non, pas n'importe quand.
Ah.
Les délais de contestation varient selon que l'opération a été autorisée ou non, selon le type d'opération et la localisation du bénéficiaire de l'opération.
Ok, alors comment est-ce qu'on conteste une opération autorisée?
Voilà, en ce qui concerne les opérations autorisées, donc une opération, on considère qu'elle est autorisée quand vous avez donné votre consentement à son exécution. Donc il y a plusieurs types d'opérations. Pour un prélèvement, on a 8 semaines à compter du débit pour exiger un remboursement sans condition. Et la banque a 10 jours ouvrables pour vous rembourser ou justifier votre refus. Vous avez un prélèvement, vous dites non, je ne le voulais pas. Pour les autres opérations, donc que ce soit, ça peut être les virements, les paiements par carte bancaire, on peut contester dans ce même délai uniquement dans deux cas. Donc si l'autorisation n'indiquait pas le montant exact de l'opération et si le montant débité dépasse ce que vous pouviez raisonnablement prévoir selon votre contrat, vos dépenses ou les circonstances propres à l'opération. C'est une opération très exceptionnelle et je ne pouvais pas le prévoir.
Alors c'est quoi? C'est par exemple le prélèvement
un gaz qui serait très élevé par rapport à
d'habitude, quoi.
Alors ça, ce n'est pas pour les prélèvements, c'est pour les virements.
Ah pardon, pour les virements.
Les virements
okay.
Ou les paiements par carte bancaire, quelque chose qui est exorbitant par rapport à mes opérations habituelles.
D'accord.
Donc en dehors de ces cas, l'opération n'est pas contestable auprès de la banque puisque j'ai donné mon autorisation. Et c'est au bénéficiaire du paiement qu'il faut demander le remboursement à ce moment-là. Si on a payé quelque chose à tort, ce n'est pas la banque, mais c'est au bénéficiaire. Il faut quand même vérifier une chose, c'est si on a une assurance qui est liée à la carte bancaire et qui couvrirait ce type de cas. Ou alors, si la marque de votre carte, donc Visa, Mastercard, etc., prévoit une procédure de rétrofacturation ou qui s'appelle aussi chargeback. Ouais. Dans ce cas-là, effectivement, c'est quand, dans certains cas de paiement par carte bancaire, on peut demander. Il y a en particulier la liquidation judiciaire, il y a quand il y a une fraude, etc. Mais il faut effectivement vérifier que votre carte prévoit ce genre d'opération.
Bien, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'une carte prévoit.
Tout à fait. Oui.
Comment contester une opération non autorisée ou mal exécutée ?
Alors, pour une opération donc non autorisée, c'est-à-dire que je n'ai pas donné mon autorisation avant, on peut la contester dès qu'on a la connaissance. D'ailleurs, il est conseillé de le faire. Par exemple, la réception du relevé de compte, puisque à ce moment-là, je vois que l'opération n'est pas normale. Ouais. Et au plus tard, dans les 13 mois suivant le débit, tous les moyens de paiement confondus. Donc, c'est toujours au plus tard les 13 mois suivant le débit. Donc, en ce qui concerne le paiement par carte bancaire, le délai est réduit à 70 jours ou 120 jours selon la convention de compte si le bénéficiaire du paiement est hors de l'espace économique européen, c'est-à-dire l'Union européenne plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Si la banque ne vous a pas envoyé le relevé bancaire retraçant l'opération, le délai ne court pas puisque vous n'êtes pas censé savoir que l'opération a été passée. Attention, si vous avez une copie de relevé, elle peut suffire à prouver l'envoi et la réception, hein, donc même si vous n'avez pas reçu. Donc, quelques conseils. Ouais. Consulter ces relevés régulièrement.
Oui, ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément et pourtant, c'est
exactement,
important.
Exactement, oui, effectivement, on a beaucoup de litiges par rapport à ça. Avant tout paiement en ligne, vérifier la localisation du professionnel dans les conditions générales de vente du site. Hein, c'est surtout pour les sites internet. On a l'impression de commander en France alors que le site se trouve à l'autre bout du monde.
Et on l'a vu, donc, les délais
voilà,
sont tous les mêmes.
Et les délais concernant seulement le signalement des opérations frauduleuses à la banque et non le délai pour agir en justice, hein, c'est-à-dire les 70 jours, etc. Oui. En cas de refus de remboursement de celle-ci, donc on a 5 ans pour saisir le tribunal. C'est-à-dire que
d'accord.
Si on va en justice, c'est pas
oui, c'est pas les pas délais prévus précédemment. Ma banque me demande des renseignements que je trouve intrusifs. Identité, ressources, le tout en invoquant la lutte contre le blanchiment d'argent. Est-ce que je dois répondre ?
Alors oui, il faut répondre. Effectivement, c'est une question qu'on a relativement souvent en disant « la banque, elle me demande des choses, moi, je n'ai pas envie de les donner, mon avis d'imposition ou autre chose, etc. » Eh bien, si, il faut, effectivement. Donc, c'est dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc, les banques ont une obligation. Elles doivent, sous peine de sanctions, connaître l'identité de leurs clients, la nature de la relation d'affaires et en assurer le suivi. Donc, c'est pourquoi, tous les ans, on va vous demander, effectivement, de donner un certain nombre de documents. Il faut, voilà.
Quelles sont les informations au titre de la connaissance du client ?
Alors, pour connaître son client, donc à l'ouverture du compte, la banque doit vérifier l'identité du client avec un document officiel valide comportant la photo, donc c'est une carte nationale d'identité, un passeport, un titre de séjour, etc., dont elle peut conserver une copie. Donc là aussi, quelquefois, on est un peu réticent à laisser la copie, mais c'est légal.
Ouais.
Pour les banques ou les néobanques en ligne, une vérification complémentaire est nécessaire. Donc, par exemple, la signature électronique ou un virement depuis un compte existant à votre nom. Un justificatif de domicile à jour peut aussi être exigé, donc ce qui est une facture d'énergie, une quittance de loyer, une assurance de logement, etc. Et enfin, la réglementation prévoit la collecte d'informations sur les activités professionnelles, donc votre activité professionnelle, vos revenus ou tout élément pour estimer vos autres ressources. C'est vrai que quelquefois, on trouve que
on n'a pas forcément très envie de les donner. Ouais.
Exactement. Et tout élément pertinent pour apprécier votre patrimoine, puisqu'effectivement, votre banque doit connaître votre patrimoine, toujours dans ce cadre de... Voilà, ces informations peuvent être recueillies et actualisées à tout moment. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je les ai données à un moment qu'on ne va pas me les redemander. Et quelquefois, on peut me les demander effectivement tous les ans.
D'accord.
Et donc, il y a aussi les justificatifs lors d'une opération bancaire. Donc là, c'était à l'ouverture. Lors d'une opération bancaire, selon le principe de non-ingérence, la banque n'a pas à s'immiscer dans la gestion d'affaires de ses clients et n'a pas à juger du bien fondé d'une opération.
Oui.
Encore.
Ils ne peuvent pas vous dire, ça, vous n'avez pas, il ne faut pas acheter.
Voilà,
quoi.
Tout à fait. Mais par contre, au titre donc, de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, elle est tenue de procéder à un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou sans justificatif économique apparent. C'est-à-dire que s'il y a un gros mouvement d'argent, elle peut effectivement demander des justificatifs. Donc, elle peut vous demander des précisions sur l'opération.
D'accord. Alors, quelles sont les conséquences en cas de non-réponse ? J'ai décidé que finalement, je n'allais pas apporter toutes les réponses aux questions posées. Là.
Alors, la banque doit vous informer du motif de sa demande. Donc, vous expliquer pourquoi elle le fait. Des conséquences en cas de non-réponse, c'est-à-dire que vous encourez.
Ouais.
La collecte des informations ne doit pas être systématique, mais justifiée et proportionnée au risque de blanchiment et
de financement
du terrorisme. De plus, ces informations ne peuvent servir à des fins commerciales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser ça pour vous faire des propositions de placement.
Oui, c'est vraiment
dans les deux cas.
C'est
une obligation légale qui n'a rien à voir avec effectivement la gestion de votre patrimoine. Sous ces conditions, et même s'il n'est pas imposé de justificatif, hormis pour l'identité et le domicile, refuser de répondre est risqué. Donc la banque peut bloquer les opérations et clôturer le compte. Elle doit aussi, en cas de doute, faire une déclaration à Tracfin. Donc c'est l'organisme qui est chargé du blanchiment. Ouais.
Allez, on revient sur les questions de ce que la banque peut faire ou pas. Un proche est décédé, sa banque a facturé des frais à ses héritiers pour clôturer son compte. Est-ce que c'est normal ?
Alors oui, c'est normal. Dès lors que ces frais sont prévus dans la convention de compte du défunt, au jour de son décès, la banque peut les prélever à la clôture du compte, pour la clôture du compte. Donc ces frais rémunèrent la gestion administrative du dossier du défunt jusqu'au transfert des avoirs aux héritiers, principalement la réception de l'acte de décès, l'inventaire des fonds, la gestion des éventuelles opérations de compte, etc. Donc à ce jour, ces frais ne sont pas réglementés, ils sont donc variables d'une banque à l'autre. Ils peuvent être fixés dès le premier euro des avoirs en compte, à partir de certains montants avec des pourcentages ou des sommes fixes appliquées par tranche ou au forfait. Et ça, chaque banque, effectivement, va fixer ces conditions qui figurent, comme toujours, dans la convention de compte.
Donc, finalement, quand la personne décède, la famille découvre ce qu'elle
Tout
va devoir
à fait,
payer
parce
à la banque.
On n'a généralement pas regardé avant.
Bien sûr. Quelles sont les démarches ?
Alors, vérifier les conditions tarifaires de la banque, consultables en général sur le site de la banque, ça c'est toujours la même chose.
Ouais.
Si les frais ne correspondent pas à ceux qui ont été appliqués, adresser un courrier recommandé avec accusé réception à l'agence bancaire en exigeant l'application des tarifs, préciser effectivement, dans la convention bancaire c'était ça, et vous m'avez demandé, ça c'est différent, et donc le remboursement du trop-perçu. Si les tarifs appliqués correspondent, on peut tenter de négocier en invoquant le fait que les frais vous semblent disproportionnés. En effet, selon les avoirs financiers du défunt, la banque n'a pas le même travail de suivi à effectuer. Et puis, ne pas hésiter à comparer les tarifs bancaires. Mmh. On peut aussi dire, voilà, l'argent, il va rester dans votre banque parce que les héritiers sont aussi à la banque. Donc, ça peut être éventuellement un petit peu négociable.
Oui, un petit levier de négociation. Ouais.
Donc, ce qui est bon à savoir, c'est que les frais bancaires sur succession seront bientôt encadrés.
Ah, ça, c'est plutôt une bonne chose.
Voilà, donc après avoir dénoncé pendant des années la dérive des frais bancaires perçus sur les successions, l'UFC Que Choisir a obtenu donc leur encadrement. C'est une loi du 13 mai 2025 qui vise à réduire et encadrer les frais bancaires sur la succession. Donc à partir du 14 novembre de cette année, 2025, la gratuité totale est prévue pour la clôture des comptes détenus par un mineur, des comptes dont le montant accumulé est inférieur à 5 910 euros, des comptes d'une succession dite simple, quel que soit leur montant total. Pour le reste, les frais sont plafonnés à 1% maximum du montant total des sommes détenues et selon un barème dégressif fixé par décret en attente de publication. Donc ça, effectivement, c'est une amélioration par
clairement.
Rapport à la situation actuelle.
Et puis au moins, les choses seront précises.
Tout à fait.
En cas de découvert bancaire, est-ce que j'aurai des frais ?
Eh oui.
Ah, alors, obligatoirement.
Obligatoirement. Alors, il n'y a pas de droit au découvert. C'est-à-dire qu'on peut avoir un compte sans découvert autorisé. Donc, la banque n'est pas obligée de l'accorder.
Oui,
ça va dépendre de la situation du client.
Alors, on va peut-être redire ce qu'est un découvert bancaire.
Oui, alors le découvert bancaire, c'est quand vous êtes en situation de découvert, lorsque votre compte passe en négatif.
Oui.
Donc, il y a plus de dépenses que de recettes. La banque avance alors les fonds nécessaires pour honorer les opérations. En contrepartie, elle facture des intérêts débiteurs appelés AGIO.
Oui. Le principe ?
Alors, en principe, donc, le découvert bancaire est payant, évidemment.
Eh oui, évidemment, on se doute bien.
Les AGIO sont prélevés en fonction du montant utilisé et de la durée, sauf si votre convention prévoit la gratuité. Donc, c'est toujours pareil, la convention de compte.
Oui, très importante, quand même.
De plus, des frais pour la mise en place.
Ou savoir où la trouver pour la relire.
C'est ça, plutôt. Donc, de plus, des frais pour la mise en place de l'autorisation de découvert peuvent être prévus. Donc, il y a un principe. En dessous de 400 euros, les AGIO sont forfaitaires, quel que soit le montant du découvert.
D'accord.
À partir de 400 euros, les AGIO sont proportionnels au montant du découvert et à la durée de son utilisation sur la base du taux défini dans la convention de compte. Le montant total des AGIO prélevés figure dans le récapitulatif des frais annuels édités par la banque, donc qu'on va recevoir avec ses extraits de compte. Et donc, il y a certaines situations qui sont ubuesques. L'UFC Que Choisir donc, se mobilise depuis plusieurs années pour un encadrement plus strict. Par exemple, vous aurez un découvert de 1 euro utilisé sur une courte période, mais déclenchant le minimum forfaitaire peut se révéler plus coûteux qu'un découvert de 401 euros, ce dernier n'activant pas le mécanisme forfaitaire. Donc, c'est-à-dire le système du forfait pour les petits, c'était pas toujours un cadeau.
Et puis, des fois, ils l'utilisent un peu. Voilà. Des frais supplémentaires sont-ils possibles?
Alors, en cas de dépassement du découvert autorisé, des frais supplémentaires seront facturés, effectivement. Donc, des agios majorés, le taux est libre dans la limite du taux d'usure consultable sur le site de la Banque de France, qui est très élevé, le taux d'usure. Des frais de commission d'intervention plafonnés, donc 8 euros maximum par opération et 80 euros par mois, qui sont liés à l'examen particulier du compte en cas de présentation d'une opération insuffisamment provisionnée. Il y a des frais de lettre d'information pour dépassement du découvert, on vous envoie un courrier recommandé, etc. Des frais de rejet d'opération plafonnés. 30 euros pour les frais, alors ces frais de rejet, c'est 30 euros pour les chèques inférieurs ou égaux à 50 euros et au-delà de 50 euros de frais maximum.
D'accord.
Et pour les autres opérations, donc rejet de prélèvement, virement, etc., c'est 20 euros. Et c'est vrai que tout ça peut faire une grosse somme quand on commence à avoir des problèmes avec sa banque. Alors, ce qui est bon à savoir quand même, c'est que pour les clients en situation de fragilité, donc c'est une offre spécifique clientèle fragile ou droit au compte assorti de services bancaires de base. Donc ça, c'est effectivement pour une certaine catégorie de personnel. Les frais de commission d'intervention et d'accident de paiement sont limités. C'est-à-dire qu'on ne va pas appliquer des tarifs et des mesures spécifiques.
Alors, en cas de faillite des banques, l'argent de mon compte courant est-il protégé? C'est une vraie question, ça. Il y a eu des craintes sur les crises financières et la réponse, c'est quoi? Est-ce que mon argent, je le garderai ou pas?
La réponse est oui.
Ah, c'est une bonne nouvelle, là.
Alors, les dépôts sont protégés, mais seulement jusqu'à 100 000 euros par client et par établissement. Donc, c'est grâce au fonds de garantie des dépôts de résolution. Le plafond s'applique sur l'ensemble des comptes détenus dans le même établissement et non pas pour chaque compte.
Hein, ok.
Donc, il y a un certain nombre de comptes protégés, donc, en particulier les comptes courants, les comptes de dépôt à vue ou à terme, les comptes et les plans épargne logement, CEL, PEL, les plans d'épargne populaire, les livrets jeunes, les comptes espèces liés à un compte titre, les plans d'épargne d'action, le plan épargne retraite ou salariale et enfin les chèques de banque qui ne sont pas encore encaissés.
Donc si on résume tous ces comptes-là, voilà, à hauteur de 100 000 euros, ils sont garantis?
Tout à fait.
100 000 euros cumulés.
Ça va par client, tout ça. Ouais, pour le total de tout ça, c'est garanti donc, par ce fonds. En ce qui concerne les livrets A, les livrets de développement durable et solidaire et les livrets d'épargne populaire sont également protégés à hauteur de 100 000 euros au titre de la garantie de l'État. Donc là, c'est une autre garantie qui s'applique. Et la garantie de dépôt et la garantie de l'État sont indépendantes, donc peuvent être éventuellement
cumulables. Ok, très bien. Y a-t-il des cas particuliers?
Alors oui, il y a certains cas particuliers. Effectivement, les sommes perçues en indemnisation de dommages corporels sont garanties sans limite. Donc là, on n'a pas le plafond des 100 000 euros. Les dépôts dits exceptionnels et temporaires, donc ça peut être la vente d'un logement, une libéralité, succession, etc. Pendant un certain temps, vous avez une grosse somme d'argent qui est due à une opération particulière. Elles sont garanties jusqu'à 500 000 euros.
Okay.
Et ce plafond est individuel et s'applique à chaque événement. C'est-à-dire qu'on peut avoir une succession, une vente de maison, etc. Et donc, à chaque fois, c'est ce plafond qui va se...
Pour chaque événement et par personne.
Voilà, tout à fait. Enfin, le plafond de 100 000 euros s'applique différemment pour les comptes joints ou les comptes indivis. C'est-à-dire le compte joint, donc c'est le compte monsieur ou madame, X ou Y. Sauf indication contraire dans la convention de compte, les sommes appartenant au titulaire à part égale, le plafond s'applique à chaque co-titulaire, c'est-à-dire monsieur et madame. Et par contre, quand j'ai un compte indivis, c'est-à-dire X et Y, monsieur et madame, appartiennent à l'indivision, indépendamment de ses membres. Donc là, c'est un seul plafond de 100 000 euros pour le compte.
D'accord.
Donc il est toujours plus intéressant d'avoir un compte joint, c'est-à-dire avec le OU.
Ouais, c'est ça. Beau.
Pour le fonctionnement du compte, c'est aussi beaucoup plus facile.
C'est bon à savoir. bon, évidemment, Odette, si on a des questions ou des difficultés avec notre banque, on peut s'adresser à l'UFC Que Choisir.
Tout à fait. On a régulièrement, effectivement, à régler des problèmes avec les banques. Donc on peut s'adresser à nous, on peut passer par notre site internet, nancy.ufcquechoisir.fr.
Pour prendre rendez-vous, ou
pour déposer sa question en ligne.
Directement. Eh ben, merci beaucoup, Odette, pour toutes ces infos. Je le rappelle, si vous n'avez entendu qu'une partie de cette chronique et que vous souhaitez la réécouter en intégralité, vous le faites sur le site internet www.rcn-radio.org. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Odette.
Bien sûr.
Alors, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
C'était le Rendez-vous Conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir.